Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien sur microrebelle.fr. Alors aujourd'hui, je suis avec Florent Ledemazel. Bonjour Florent.
Bonjour Lucien, bonjour à tous et merci de me recevoir aujourd'hui.
Alors donc Florent vient juste de réaliser un film documentaire, Les filles du textile, qui va être projeté en salle dans les semaines qui viennent. Je vous donnerai tout à l'heure les horaires et les dates de diffusion. Alors peut-être Florent, est-ce que tu peux commencer par te présenter, qui es-tu, ce que tu as fait ?
Alors j'ai 35 ans, j'ai grandi à Avion dans le bassin minier, j'ai fait des études de cinéma à Lille, j'ai soutenu une thèse sur les représentations du travail ouvrier fin 2018 et réalisé donc 4 films documentaires avec l'association La Compagnie Kidam, donc sur le travail dans les mines autour d'Avion et de Méricourt, sur le lycée Picasso d'Avion et donc aujourd'hui sur les ouvrières textiles du bassin minier.
Merci Florent. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de cet échange, je voudrais situer d'où parle l'intervieweur, en précisant d'emblée que j'ai été extrêmement emballé par la projection des filles du textile. Alors je vais en donner quelques raisons un peu plus tard. Tout d'abord, je voudrais te faire réagir sur la première impression que j'ai ressentie, l'impression d'un film double, voire même de 2 films en un. Un film sur les femmes et un film sur l'économie politique.
Alors, tout à fait, je souscris totalement à ta réflexion. On peut dire que le film commence sur un contexte politique, c'est-à-dire la France d'après-guerre, avec vraiment la volonté d'aller vers une social-démocratie, vers un État qui s'interpose entre le travail et le capital, et qu'il se termine de nos jours avec un désengagement de plus en plus profond des politiques face aux multinationales et un capitalisme vraiment financiarisé. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer comment des gens, des ouvrières, ont vécu ce passage à différents âges, différents stades du capitalisme. C'est-à-dire comment les choix politiques en matière d'industrie et d'économie influencent l'intimité, la vie des individus.
Un des grands intérêts de ton film, il faut bien le dire, c'est qu'il s'appuie sur des témoignages d'ouvrières issues d'entreprises différentes. On a Lévis à la Bassée, Duhamel à Arne, la Lénière à l'Homme, etc. Il y en a d'autres. Et ce sont des entreprises avec des réalités différentes. On peut imaginer que le film n'aurait pas été le même si, par exemple, tu t'étais centré uniquement sur Lévis à la Bassée. Comment as-tu pu rechercher et faire parler toutes ces ouvrières ?
Alors effectivement, moi qui ai travaillé, qui ai réalisé 2 films où j'interviewais des mineurs, des ouvriers du fond, c'était là une grosse différence parce que les mineurs, grosso modo, qu'on travaille à Avion, enfin qu'on soit dans des compagnies de courrières, etc., le travail au fond est grosso modo assez proche. Ici, il y a une grosse différence entre travailler dans une grosse usine comme la Lénière ou un petit atelier où on a une cinquantaine de personnes sur des machines à coudre. Donc, pour moi, d'un côté, je trouvais que c'était intéressant, cette diversité, parce que ça montrait aussi le vécu de différentes travailleuses, qui est une réalité, puisque c'est vraiment une corporation qui vit avec cette diversité-là, et qui montrait aussi des parallélismes, des similitudes, notamment dans la condition, puisque toutes ces ouvrières, pour la plupart, sont filles de mineurs. Pour la plupart, elles ont travaillé à peu près à la même époque et pour la plupart aussi pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que quand elles avaient 16 ans, il n'était plus question de faire des études, il n'y avait pas spécialement d'autres solutions et donc elles ont travaillé à l'atelier, à l'usine, jusqu'en général au premier enfant, puisqu'il n'y avait pas de structure pour la plupart du temps pour garder les enfants. Donc à partir de là, elles ont dû rentrer à la maison. Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer comment, dans ces entreprises, quelle était la culture dans chaque entreprise pour essayer de conserver le plus longtemps possible l'ouvrière au travail pour éviter ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire le fait que le travail épuise et donc on quitte l'entreprise pour aller ailleurs.
C'est par exemple ce que tu montres avec le journal L'Hirondelle à la Bassée, aux usines Lévis.
Voilà, je pense que Lévis, c'est vraiment un exemple paradigmatique là-dessus, puisque il y avait vraiment l'idée d'inclure les ouvrières dans la famille Lévis. Hein. C'est dire qu'on n'a pas deux classes qui s'opposent, en tout cas, c'est le point de vue patronal, on n'a pas deux classes qui s'opposent, mais une grande famille de collaborateurs. Et on va avoir dans l'Hirondelle, le journal que je montre un peu dans le film, à la fois les résultats du groupe Lévis, à la fois les nouvelles collections qui arrivent, mais aussi les mariages, les naissances, les 5, 10, 15 ans de chaque ouvrière et toutes les activités comme les concours de belote, les ateliers couture, les tournois de foot organisés par l'entreprise. L'idée, c'est de tout faire pour cocooner, pour que l'ouvrier se sente bien et inclus et considéré dans l'entreprise afin de le garder et aussi afin de le pressurer un maximum puisque Lévis, c'est peut-être l'entreprise, dans, en tout cas parmi les ouvrières que j'ai rencontrées, où les cadences, où le rendement était le plus élevé. Donc, plus on fait mine de donner quelque chose à l'ouvrier, et plus en retour, on va lui soutirer de la force de travail.
Alors, on peut difficilement évoquer le travail d'ouvrière à de femmes sans aborder la discrimination entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail. Alors, en ce sens, je ne sais pas si c'est pertinent, mais j'ai rapproché ton film d'un autre documentaire réalisé juste après mai 68 autour de la reprise du travail aux usines Vondère, des usines très féminisées également. Quand on met les témoignages de ce film et du tien en perspective, on a une perception très forte, quel que soit le type d'usine, quelle que soit sa taille, petite ou grande entreprise, la discrimination homme-femme est reproduite.
Tout à fait. Hein. Alors, cette discrimination, elle passe par différents niveaux. On peut commencer, par exemple, par prendre l'organigramme de l'entreprise, où on va avoir les ouvriers, les contremaîtres, les ingénieurs et la direction. Et plus on va monter dans l'organigramme, plus ce sera masculin. C'est-à-dire qu'au niveau de la direction ou des ingénieurs, on ne va pas trouver de femmes hein, la plupart du temps. Ce qui fait que les femmes qui travaillent à l'usine n'avaient absolument pas de perspective d'évolution, si ce n'est à la limite comme contre-dame. Et cette discrimination, elle se fait aussi même dans les postes au bas de la hiérarchie, hein, puisque on va donner aux hommes tout ce qui est plutôt considéré comme du travail de force, comme à la limite l'entretien des machines, de la mécanique, etc. Alors que les dames, dans l'imaginaire collectif, hein, y a cette idée que le textile, c'est un travail de petites mains, qu'il faut être très délicat, etc. Et du coup, cette manière de considérer les choses comme si finalement c'était naturel pour les femmes de faire des tâches délicates, c'est aussi une manière de nier leur savoir-faire, puisque manier une machine à coudre, être vive, être toujours debout à courir autour d'un métier, ben c'est aussi un savoir-faire. Il y a des gestes du travail qui s'acquièrent et qui demandent de l'expérience. Mais si on dit tout de suite travailler dans le textile pour les femmes c'est naturel, forcément on en vient à nier cette expérience, ce savoir-faire.
La condition ouvrière, la condition des travailleuses du textile, les témoignages et les extraits d'archives proposés dans ton film évoquent par exemple les cadences qui augmentent, le contrôle permanent, les corps usés par l'arthrose ou le mal au bras, les bas salaires, l'absence de perspective, le temps passé dans les transports, le temps extrêmement important passé dans les transports. Alors c'est un aspect important du film, cette question des conditions. On a l'impression que tu n'as eu aucune difficulté à amener ce type de considération. Est-ce que c'est parce que les ouvrières du film, tu les as particulièrement bien choisies, ou alors parce que finalement, toutes celles qui embauchaient dans ces usines ressentaient ces formes d'exploitation ?
Alors, je voudrais commencer d'abord par, j'aurais peut-être dû commencer par là, remercier l'Université populaire mineure du monde Goeria, qui est à l'origine du projet, et... Pour répondre à ta question, le point de départ, c'était de dire qu'il y a une espèce d'oubli dans le bassin minier de cette génération de femmes qui ont toutes travaillé dans les usines. Hein. Ça concerne quand même des dizaines, peut-être des centaines de milliers de femmes qui ont travaillé, grosso modo, des années 60 au début des années 80, pour la majorité, dans les usines du Nord et dans les ateliers du Pas-de-Calais. Et cette histoire-là n'a pas été racontée, ou en tout cas, peut-être pas suffisamment par rapport notamment au folklore, à la mythologie des mineurs, qui méritent de toute manière d'être racontées elles aussi. Donc, ce déficit peut-être de mémoire collective explique le fait que, oui, les dames ont envie de raconter ça. Elles ont envie qu'on sache qu'elles ont participé pleinement au développement économique de la région et du pays. Elles ont ramené de l'argent dans les foyers. Elles ont aussi produit de la richesse à travers les marchandises textiles qui étaient vendues, exportées, etc. Et donc, elles ont, y a cette envie clairement de raconter. Et ça, pour revenir à une de tes questions précédentes, je crois que c'est vraiment ce qui fait le lien entre toutes les usines, quelle que soit leur taille, quel que soit leur endroit, c'est-à-dire entre toutes les ouvrières, ce besoin de raconter. Maintenant, si je peux prolonger un petit peu, il y a des archives dans le film où les gens, où les femmes parlent au sortir du travail. Et là, on sent vraiment la difficulté du métier. Aujourd'hui, celles qui rencontrent, c'est encore filtré par les souvenirs de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a encore ce côté de dire finalement, c'était pas si mal, finalement, on était ensemble. Et puis, peut-être que la difficulté de faire 10 heures de travail par jour plus 4 heures de trajet, c'est un peu amenuisé parce que c'était il y a 40 ans et que finalement, on est un peu nostalgique de quand on avait 16 ans ou 18 ans et qu'on était aussi suffisamment forte pour le faire. Mais malgré tout, effectivement, oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il en reste dans les corps, en tout cas, c'est de l'arthrose, comme tu dis, il y a une dame qui a cette métaphore, on est usé, on est comme un vieux bout de tissu qu'on a trop frotté. Le corps, il est bien, mais à l'intérieur, c'est usé. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce moment-là dans les films.
Alors, tout à l'heure, tu évoquais le fait que pour la direction de Lévis, il n'y avait pas deux classes qui s'opposaient. On était en fait une grande famille, hein, la culture d'entreprise. Alors, je voudrais un petit peu aborder cette question de la lutte de classe, qui n'est pas explicitée en tant que telle dans le film, mais qui est, selon moi, abordée assez fortement. Alors tout d'abord, lutte de classe du point de vue du patronat. Alors tu montres un patron et tu commentes son point de vue. Ces femmes, c'est une main-d'œuvre flexible et docile. Ou encore à l'usine Lévis, hein, ce qu'on vient d'évoquer, des stratégies managériales qui visent à développer une culture d'entreprise. Et là ensuite, lutte des classes du point de vue des ouvrières. Par exemple, au travers de la grève à l'usine Duhamel de Arne, 350 grévistes sur 500 salariés, ou le poids des syndicats, poids qui est vu comme une force. Alors il faut bien reconnaître que malheureusement, ils sont bien rares les films de fiction ou documentaires qui traitent de la lutte des classes, du rapport conflictuel capital-travail. Alors Florent, pourquoi ce parti pris ? Est-ce que tu te situes comme un réalisateur militant ? Est-ce que c'est le rôle du cinéma ?
Très clairement, moi je pense que le rôle de toute œuvre, que ce soit le cinéma, la littérature, la photographie, c'est d'abord et avant tout de construire et d'assumer un point de vue. Ce point de vue, c'est pas simplement celui de ma subjectivité propre, c'est celui que l'on se construit avec son propre bagage scientifique et avec son chemin qu'on fait dans le réel. Moi, quand je fais un film, je propose au spectateur un regard accompagné, un regard documenté, un regard appuyé par mes propres lectures. Donc, tu parlais de lutte de classe. Moi, je me revendique clairement marxiste. J'ai lu Bourdieu, j'ai lu Simone de Beauvoir, Sylvia Federici. Pour préparer ce film, j'ai énormément travaillé en amont. Maintenant, la question peut-être du film, c'est comment on fait pour que les ouvrières que je rencontre ne soient pas l'illustration de théorie que j'ai en moi au préalable, mais plutôt comment le travail préparatoire que j'ai fait va me permettre de comprendre leur expérience et de la faire partager le mieux possible aux spectateurs. Il ne s'agit pas d'arriver en disant « Marx pense ça et le monde est comme ça ». Il s'agit de dire « Voilà, je vous propose cette manière de voir les choses et à partir de là, de comprendre ce que ces femmes ont vécu ». Elles gardent à chaque fois, toujours, à travers notamment la longueur des entretiens, la longueur, le montage hein, qui propose des longues plages de dialogue avec ces femmes, leur qualité individuelle, leur parcours singulier, leur expérience propre, leur imaginaire aussi, les choses qui les ont vraiment marquées. Mais moi aussi, j'essaye de construire un contexte général qui permet de mieux saisir finalement cette expérience qui est elle-même historique, hein, puisqu'elles sont elles-mêmes prises dans des structures qui ont une histoire.
Donc en quelque sorte, ce qualificatif réalisateur militant tu peux l'assumer.
Tout à fait, mais à condition qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas de... Il faut toujours laisser aussi une place au spectateur. Moi, je m'assume comme... je me montre dans le film, j'apparais, je dialogue. Il s'agit bien de comprendre que ce que je propose, c'est une proposition. Après, d'ailleurs, les projections sont régulièrement accompagnées de débats, puisque je laisse à chacun le loisir d'accepter, d'en prendre, d'en laisser, et puis qu'on échange ensuite.
Alors on va revenir sur cette lutte des classes, cette lutte entre les travailleurs, travailleuses et le patronat. Et il y a aussi le rôle du pouvoir politique. Alors le film semble balayer toutes les illusions à ce sujet. Le film parle par exemple de l'impuissance du pouvoir politique devant les multinationales. Et le film cite François Mitterrand, l'entreprise choisit ce qui lui convient. Alors si le pouvoir politique a ses limites, finalement puisque tu viens de citer Marx, on en revient à l'émancipation des travailleurs, doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Il y a François Mitterrand et juste avant, il y a aussi Georges Pompidou. Et ce que j'ai essayé de montrer dans cette troisième partie du film, c'est vraiment comment le néolibéralisme fait son chemin dans les sphères, les hautes sphères politiques, quoi. Parce que s'il y a bien effectivement une impuissance des politiques face aux multinationales, c'est d'abord et avant tout une impuissance consentie. C'est-à-dire, à un moment donné, on a fait le choix de laisser le capital faire ce qu'il voulait avec les lieux de production, c'est-à-dire de les déplacer de plus en plus loin, d'abord aux frontières, d'abord même dans l'Europe elle-même, au sein de la CE, puis de plus en plus loin, en Pologne, en Turquie, au Maghreb, et ensuite en Asie. Mais ce choix-là, c'est pas, il a rien d'une fatalité en fait. Il aurait tout à fait pu. On avait des outils politiques pour l'en empêcher. Par exemple, les barrières douanières. Le textile a été un des principaux une des principales marchandises sur lesquelles on s'est un peu écharpé sur les tarifs douaniers. Et il y a eu des accords, ce qu'on appelait les accords multifibres, qui ont été de plus en plus... les tarifs douaniers ont été, dans ces accords, de plus en plus baissés jusqu'à ce que ces accords soient complètement annulés dans les années 90. Et je renvoie d'ailleurs au livre des ouvrières de Lévis, fait avec un journaliste, Emmanuel Defoulois, où il donne vraiment les chiffres. Et y a, s'il y a bien un endroit au monde où il y a le moins de barrières douanières sur le textile, c'est l'Union européenne. Donc c'est ça aussi qui permet la concurrence entre des travailleurs exploités, qui meurent d'ailleurs également de la silicose, des travailleurs du textile turc, j'en montre un petit morceau dans le film, qui meurent de la maladie des mineurs. Donc comme s'il y avait une espèce... c'est aussi pour moi une manière de pointer en gros l'international quoi, ouvrière, à travers malheureusement l'exploitation capitaliste.
Cinéma engagé ou militant, dans ce contexte, contexte d'un film social et politique, comment est-ce que tu envisages les aspects formels ?
Alors, j'ai un peu eu déjà l'occasion d'en parler. Moi, la matière première de mes films, c'est le témoignage, c'est la parole humaine. J'estime que les gens du peuple sont capables de raconter leur vie. Pour moi, il y a cette idée extrêmement importante d'égalité de parole, de possibilité à chacun de dire sa place dans l'histoire, à condition qu'on crée les conditions pour. C'est-à-dire qu'on soit capable de l'écouter, qu'on soit capable de le resituer, qu'on l'aide en tout cas à se resituer dans une période historique, et qu'on crée les conditions, c'est-à-dire on discute avec la personne, on essaye de voir ce qu'elle a vécu, et puis après on pose les bonnes questions, on l'amène du mieux possible à parler, et après, donc ça c'est au moment du tournage, et au moment du montage, ce que j'essaye de faire, c'est de laisser le plus de place possible à l'intelligence des personnes. C'est de faire ressortir ça. Il faut que les personnes que j'ai rencontrées qu'on sente vraiment comment elles ont analysé leur vie, comment elles ont compris ce qu'elles avaient vécu, ce qu'elles en retirent et ce qu'elles peuvent transmettre. Donc c'est des choix de tournage, c'est des choix de montage. Et voilà, moi je suis pas forcément, j'ai pas un, je suis pas un, il y a des cinéastes du cadrage, il y a des gens qui sont vraiment capables de des gens que j'admire beaucoup, comme Van der Kuiken ou Marker, etc., qui ont un œil vraiment photographique pour le cadrage. Moi, mes cadres restent informatifs, j'essaye de resituer la cité, le lieu de vie des gens, mais là où moi j'aime vraiment, où je me sens le plus à l'aise, c'est sur la parole humaine, quoi. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de très politique, quoi, finalement, de montrer une espèce d'égalité des intelligences.
Alors, un peu dans cet esprit d'intelligence politique, je reviens sur les femmes au travail. Ton film ouvre plusieurs portes à ce sujet. Tout d'abord, le fait qu'elles ont, l'expression est bien connue, un double travail, le travail à l'usine et le travail domestique. Tu parles à ce sujet du travail pour la reproduction de la force de travail.
Tout à fait. Alors, je parlais tout à l'heure de Silvia Federici. C'est le début du film qui parle notamment de la reproduction de la force de travail. Dans son livre Le capitalisme patriarcal, Federici montre comment, en fait, pour se développer, l'industrie lourde a eu besoin de ramener les femmes à la maison. C'est-à-dire que pour avoir des ouvriers suffisamment forts pour travailler dans la métallurgie, dans les mines, dans les industries donc de force, on ne pouvait pas se contenter d'avoir des travailleurs malingres qui mouraient à 40 ans. Il fallait avoir quelqu'un qui s'occupait de la maison, du repas, qui lavait le linge, etc., qui gérait à la fois l'hygiène et qui s'occupait des enfants. C'est ce qu'on voit notamment au début du film avec les centres ménagers des houillères. Donc c'était même une politique encore étatique dans les années 50-60 de maintenir la femme dans ce rôle d'entretien du foyer, quoi. Ce que rappelle Federici, c'est qu'avant ça, dans les années 1850 encore, la femme travaille comme l'homme à l'usine. Il y a presque plus d'égalité entre les deux. Elle sort aussi beaucoup au cabaret. Et donc, il y a eu une espèce de contrôle à la fois économique et masculin, une double domination qui s'est abattue sur elle pour lui enlever de la liberté quelque part et la rendre dépendante de l'homme, puisque ça s'est traduit aussi par une augmentation significative du salaire masculin qui devient un salaire de la famille. Et dans le film, on voit aussi d'ailleurs les femmes de mineurs qui vont chercher la pension du mari, puisque elles sont les économes, mais elles ont pas elles ont cette responsabilité de gestion de l'argent, mais elles n'ont pas cette reconnaissance qui est liée au salaire, quoi. C'est vraiment, pour parler comme Marx, enfin c'est Marx qui disait l'ouvrière, c'est la prolétaire du prolétaire.
Alors on va revenir sur un aspect que tu as abordé en début d'entretien. Pour le travail à l'usine, il y a les mauvaises conditions de travail, celles qu'on a déjà évoquées, l'exploitation. Mais il y a aussi le travail qui permet une certaine autonomie, notamment quand on est une jeune fille, et une certaine reconnaissance. Le film parle du travail gratuit quand on est mère au foyer, travail qui ne génère aucune reconnaissance. Mais il y a aussi le travail qui est vu comme une contribution à la société, à un groupe, à une classe sociale. Est-ce que tu peux revenir sur ces différentes tensions ?
Oui, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, le travail, c'est quasiment la valeur première dans la société. Non pas pour le plaisir d'aller enrichir le patronat, non pas non plus seulement uniquement pour le pécule financier qu'on en retire. Mais d'abord et avant tout parce que travailler, c'est faire partie d'un collectif. C'est s'inscrire dans une travailler dans une entreprise, avoir des collègues, travailler avec les gens, mener en commun tenir en commun des objectifs, des missions. Donc ça, c'est valorisant pour d'être reconnu par son savoir-faire, quel qu'il soit. Et plus globalement, c'est aussi participer à la société. C'est presque il y a un côté presque citoyen aujourd'hui dans la vision du travail. Alors je dis pas que moi je suis pour, loin s'en faut. Surtout que ça passe par l'idée que c'est uniquement le travail financier. On sait qu'il y a des gens aujourd'hui comme Friot, par exemple, qui voudraient qu'on considère l'ensemble des activités comme du travail et que ça soit donc payé comme tel. C'est-à-dire passer la tondeuse pour le voisin ou les grands-parents qui gardent les enfants, que c'est aussi du travail, que ça devrait être valorisé. C'est ce déficit-là qu'ont ressenti ces dames toutes quand elles ont arrêté de travailler, c'est que d'un coup, elles se sont senties isolées, elles avaient perdu cette dimension collective du travail, et elles ont perdu aussi le sentiment de reconnaissance qui est lié au fait d'apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit la pierre à l'édifice du foyer ou plus globalement de la société.
Très bien, merci Florent. Alors on va s'acheminer vers la fin de notre échange. Alors, il ne nous est pas possible d'aborder toutes les thématiques du film. On peut quand même en évoquer quelques-unes pour inviter nos auditrices et nos auditeurs à assister aux prochaines projections. On a parlé des femmes au travail, mais il y a aussi la vie des femmes, avec par exemple les questionnements sur avoir ou non des enfants ou sur l'avortement. Et puis concernant le travail, il y a la description concrète de certains métiers, comme les bobineuses ou le travail de confection d'un jean Levi's. Alors c'est tout à fait rare au cinéma, les paroles ouvrières qui abordent le contenu de leur métier. Autre thématique, le rapport à la machine. Et puis le collectif de travail, comment on s'organise pour tromper la surveillance. Comment on discute en travaillant. Et puis comment, je cite une ouvrière, on faisait les folles, on se libérait. Alors beaucoup de ces thématiques rapprochent d'ailleurs ton cinéma de l'activité journalistique de Micro Rebelle. Par exemple, à propos des images d'archives présentes dans le film, la voix off nous éclaire. À l'époque, la classe ouvrière était digne d'intérêt pour le journal télévisé. C'est vrai que ce n'est plus le cas aujourd'hui, sauf chez certains médias indépendants, telle notre radio Micro Rebelle. Autant de raisons et bien d'autres pour assister à l'une des prochaines projections des Filles du Textile. Alors je rappelle quelques dates et quelques lieux de projection. Mardi 25 janvier à 19h, au centre Arc-en-Ciel à Liévin, réservation 03 21 44 85 10. Jeudi 3 février à 19h, à l'espace culturel de la gare à Méricourt, réservation 03 91 83 14 85. Mardi 8 mars, 19h, au cinéma Le Familia à Avion, réservation 03 21 67 01 66. Je te laisse néanmoins la parole si jamais tu as d'autres envies d'aborder d'autres thématiques.
Peut-être simplement pour terminer sur, comme on évoquait un peu le collectif du travail, ce collectif-là, c'est aussi une grande force pour tenir tête au patronat dans un souci de lutte des classes et aussi pour les petites luttes tout simplement quotidiennes dans l'usine. Et puis c'est aussi une grande source de joie. C'est un film aussi, je pense, où on rit quand même assez souvent, puisque le collectif du travail, c'est aussi le moment où est-ce qu'on raconte les anecdotes du week-end, on fait des blagues avec les copines. Et donc voilà, tout ça, c'est des choses aussi, toute la joie aussi qui caractérise la classe ouvrière. Je pense qu'on peut aussi en sentir une petite partie dans ce film. Voilà.
Tout à fait. Bien, merci Florent et puis bonne continuation.
Merci à toute l'équipe.